Imaginons un instant un centre commercial gigantesque, mais vraiment un truc d'une taille tentaculaire, quoi. Ouvert de jour comme de nuit, sans interruption.
Ouais, le genre d'infrastructure qui ne ferme jamais ses portes, en fait.
Exactement, et qui attire, on parle de la bagatelle de 900 millions de visiteurs chaque semaine. C'est juste dingue, hein, c'est l'équivalent de toute la population de l'Europe, plus une bonne partie de l'Amérique du Nord, qui se balindrait au même temps dans les allées.
Ça donne le vertige quand on visualise la chose comme ça.
Complètement. Sauf que, dans ce fameux centre commercial, la majorité écrasante des gérants de boutiques n'ont même pas conscience que la porte d'entrée de leur propre magasin est, ben, elle est virtuellement invisible.
C'est ça le pire. Ils sont là, mais on les voit pas.
Ouais, et il y a pire encore. L'agent de sécurité qu'ils ont eux-mêmes embauché à l'entrée de la boutique passe ses journées à refouler violemment les clients les plus qualifiés et les plus riches du marché.
Bah oui, c'est une situation complètement absurde.
C'est totalement absurde, mais c'est exactement la réalité du commerce en ligne aujourd'hui, en ce mois d'avril 2026, avec ChatGPT. On le sait, le modèle a franchi ce cap hallucinant des 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Et le truc, c'est qu'une part grandissante de ce trafic a radicalement changé de nature.
Ouais, clairement. Les gens ne viennent plus juste pour lui faire écrire un poème ou résumer une réunion Zoom interminable.
Voilà, aujourd'hui, on tape des requêtes purement transactionnelles. Il y a une intention d'achat qui est féroce. On voit passer des recherches ultra ciblées du genre meilleure imprimante 3D résine 2026 ou crème solaire bio bébé peau atopique.
Et les données récentes illustrent ce changement de paradigme d'une violence inouïe, pour le coup. Si on regarde juste la métrique des sessions e-commerce qui viennent directement des recommandations de ChatGPT, on observe une explosion phénoménale. On parle de 1079% de croissance sur les 12 derniers mois.
Plus de 1000%, c'est juste énorme.
Ouais, c'est énorme, mais après, faut garder la tête froide et contextualiser un peu. Ce volume, au final, ça représente encore que 0,2% du trafic web marchand total aujourd'hui. Donc statistiquement,
C'est une goutte d'eau, en fait.
exactement, c'est une goutte d'eau, mais en moins, cette fameuse goutte d'eau, elle monopolise déjà plus de 90% de tout le trafic commercial généré par l'ensemble des grands modèles de langage sur le marché. En termes de vélocité, c'est le canal d'acquisition client qui a la courbe de croissance la plus agressive de l'histoire du e-commerce.
Et c'est précisément pour ça qu'on fait cette analyse approfondie aujourd'hui. L'idée ici, c'est pas de philosopher sur des concepts abstraits d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. On va vraiment adopter une posture stricte de praticien du SEO e-commerce.
Ouais, on va parler à ceux qui ont les mains dans les logs serveurs depuis plus de 10 ans.
Voilà, je suis persuadée que c'est là que ça se joue. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer la réalité technique de l'infrastructure. Comment ces algorithmes font pour cartographier concrètement une boutique? Pourquoi est-ce que de grandes marques se tirent une balle dans le pied techniquement sans s'en rendre compte? Et surtout, comment on doit restructurer l'architecture d'un site pour transformer ce nouveau trafic en, bah, en marge nette, quoi?
Bah, l'enjeu, il est strictement financier. Faut pas se leurrer. Chaque friction technique dont on va parler aujourd'hui, ça se le paye cash. C'est un coût d'acquisition client qui flambe, c'est du chiffre d'affaires fantôme, et c'est surtout une hémorragie de parts de marché au profit d'acteurs plus petits mais plus agiles. Des acteurs qui ont déjà compris la syntaxe des machines, en fait.
C'est clair. Et la première étape pour capter cette nouvelle vague d'acheteurs, j'ai l'impression que ça demande de complètement désapprendre nos anciens réflexes SEO.
Ah bah totalement. ChatGPT, ça se comporte pas du tout comme un moteur de recherche traditionnel qui va juste puiser passivement dans un index figé. C'est pas Google il y a 10 ans, quoi.
D'accord. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe sous le capot, en fait. Si l'approche est si différente d'un Googlebot classique, c'est quoi la logique de l'algorithme quand un utilisateur cherche, je sais pas, des chaussures de trail imperméables? Comment il décide qui mérite d'être cité?
Bah, le cœur du réacteur, ça repose sur un environnement d'exécution interne qui s'appelle web.run. Quand il détecte une intention de recherche complexe, le modèle déploie carrément des agents en temps réel sur le réseau.
Des agents qui font quoi concrètement?
En gros, le monitoring du site architecture montre qu'il a une douzaine d'opérations distinctes à sa disposition. Il va utiliser la commande search query pour interroger le web, open pour ouvrir et extraire une page, find pour isoler un bout de texte, clic pour naviguer de lien en lien ou même screenshot pour valider visuellement un rendu.
Ah ouais, donc il interagit vraiment avec la page, il ne se contente pas de lire le code source bêtement.
Exactement. Mais la vraie révolution, celle qui a tout bouleversé pour le e-commerce, c'est la bascule technique vers le modèle GPT 5.3.
Attends, qu'est-ce qui a changé spécifiquement avec cette version 5.3 pour que ça bouscule autant les règles d'indexation des boutiques? J'avoue que j'ai vu passer le truc, mais j'aimerais bien qu'on creuse.
C'est le format de traitement des données. Avant cette version, le modèle envoyait et recevait ses commandes sous forme de texte classique. C'était fonctionnel, hein, mais c'était assez lourd et ça créait pas mal d'erreurs d'interprétation si le code de la page était un peu brouillon.
Et donc avec la 5.3, ils ont changé le format de lecture ?
Ouais. L'intégralité du pipeline est passée sur du JSON. C'est un format de données hyper structuré. La conséquence, elle est brutale. L'algorithme est devenu d'une précision chirurgicale, mais sa tolérance à l'imperfection a littéralement chuté à zéro.
D'accord, donc si elle a moindre erreur de syntaxe, c'est mort.
C'est exactement ça. Un parsing strict en JSON, ça veut dire que si une balise est mal fermée, bim, la source entière est rejetée. C'est pas comme un navigateur web classique, Chrome ou Safari, qui va essayer de réparer visuellement un code un peu cassé pour afficher la page quand même. Le bot, il s'en fout, il rejette tout.
Et ça a eu un impact direct sur la visibilité des marchands, j'imagine, hein ?
Ah bah, sur des milliers de parcours d'achat qu'on a monitorés, ce changement a provoqué une chute sèche de 20% du nombre de domaines cités dans les réponses. En moyenne, on est passé de 19,1 domaines marchands mentionnés à seulement 15,2.
Waouh ! Donc du jour au lendemain, juste à cause d'une petite mise à jour de format de lecture interne, l'entonnoir s'est drastiquement resserré. La compétition a augmenté de 20% sans qu'aucune marque n'ait touché à ses produits.
C'est fou, hein ? Le modèle a besoin de beaucoup moins de sources pour garantir sa réponse maintenant, mais à la seule condition que ces sources aient un code JSON parfait. Et pour le e-commerce, cette exigence de perfection, elle se cristallise autour d'une commande spécifique parmi les 12 qu'on a citées, c'est la fonction Product Query.
La fameuse Product Query. Ça s'active que quand l'intention d'achat est détectée, c'est ça, Evelyne ?
Ouais, exclusivement. Et ça modifie totalement la façon dont l'agent va lire la page.
Qu'est-ce que ça implique pour le marchand ? Il lit pas la fiche produit de la même manière qu'un tuto ou qu'un article de blog.
Ben non, absolument pas. Quand l'agent déploie une product query, il cherche plus du texte informatif pour faire une synthèse. Il cherche à valider ce que le système appelle une entité commerce. Donc la fiche produit, elle est passée au scanner à travers un prisme purement transactionnel et c'est hyper sévère.
C'est-à-dire, il veut quoi comme info exactement ?
Il s'attend à extraire des variables quantifiables et définitives. Il faut un prix non ambigu, une notion de stock en temps réel, un volume d'avis client avec des vraies métriques vérifiables et des spécifications techniques normées.
Ah ouais, d'accord, donc la page super minimaliste, un peu vitrine de luxe avec juste un beau titre, une énorme photo lifestyle bien léchée, un prix planqué en bas et un bouton d'achat, ça passe plus du tout.
Ça va échouer lamentablement. L'agent va ouvrir la page, constater qu'il n'y a aucune profondeur de données structurées et il va tout simplement l'ignorer dans sa réponse finale.
En gros, si on résume la dynamique de la version actuelle, la 5.4, moi je me dis que l'IA se comporte vraiment comme un personal shopper, mais genre un personal shopper complètement obsessionnel.
Ouais, c'est un peu l'idée.
Au lieu de marcher dans la rue et de regarder vaguement la devanture des magasins, il établit une grille de critères stricts, il fait une liste de courses, puis il se démultiplie en dizaines de clones pour fouiller chaque rayon, sur chaque étagère, jusqu'à trouver le produit techniquement parfait.
C'est marrant que tu dises ça, parce que cette métaphore du clonage méthodique, elle est très juste techniquement. C'est exactement le processus qu'on appelle le fan-out shopping. Sous GPT 5.4, l'agent ne se limite plus à faire deux ou trois recherches simples. Il orchestre entre 5 et 10 cycles complets d'investigation en arrière-plan avant même de taper un seul mot à l'écran pour l'utilisateur.
Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un petit délai parfois avec l'icône de recherche qui tourne.
Voilà. Le mécanisme interne qui gère ça, ça s'appelle Browse Rewritten Queries. Pour te donner un exemple concret, si l'utilisateur demande une crème solaire bio bébé, le premier cycle de recherche, il va même pas chercher des produits.
Attends, il cherche quoi d'abord alors ?
L'agent va d'abord lancer des requêtes génériques pour cartographier le marché. Il va vérifier les controverses dermatologiques du moment, il va lister les marques qui ont les bonnes certifications bio, etc. Et une fois qu'il a ces entités en tête, là il entame son deuxième cycle, le fameux fan-out.
D'accord, c'est là qu'il se démultiplie.
C'est ça. Il se clone pour lancer des recherches individuelles et simultanées sur chaque marque certifiée pour trouver les fiches produits. Et après, il y a même un troisième cycle qui va juste consister à vérifier le prix et la disponibilité en direct sur différents sites e-commerce pour comparer.
Franchement, c'est fascinant. Mais du coup, si ce robot mène des enquêtes aussi profondes, sur autant de niveaux juste pour une seule requête utilisateur, j'imagine qu'il doit marteler les serveurs des sites d'une façon hyper brutale. C'est ça qui nous amène à notre histoire de blocage massif. Notre agent de sécurité qui repousse les clients à l'entrée.
Ben t'as mis le voix dessus. C'est le cœur du problème. T'as beau avoir la fiche produit la plus optimisée du monde, le code JSON le plus parfait. Si l'agent IA se fait têche par les couches de sécurité du serveur, ben ton produit n'existe pas pour lui.
C'est un drame financier silencieux, en fait. Il y a plein de marchands qui s'en rendent même pas compte.
Complètement silencieux. Et la confusion, elle vient d'une méconnaissance globale de l'écosystème d'OpenAI. Parce qu'OpenAI, ils ont deux agents distincts qui font des choses diamétralement opposées. Le premier, c'est OAI SearchBot. Lui, c'est un robot d'indexation classique, comme le Googlebot. Il navigue doucement, il prend son temps pour alimenter les bases de données froides du modèle. Mais il y a le second.
Le fameux ChatGPT User. Le personal shopper qui agit en direct.
Exactement, lui c'est le crawler temps réel. Et il ne s'active qu'à la fraction de seconde où l'utilisateur clique sur envoyer. La pression technique est colossale. Si tu regardes les analyses de log, tu vois que cet agent explore les sites 3,6 fois plus agressivement qu'un bot d'indexation classique.
3,6 fois plus. Mais c'est perçu comme une attaque des DOS par les serveurs, ça, non?
Bah ouais, d'autant plus que la fenêtre de tir est critique. Pour que l'utilisateur ait l'impression d'avoir une discussion fluide avec l'IA, l'agent technique a un temps de réponse exigé de l'ordre de 11 millisecondes par requête.
11 millisecondes? Mais attends, techniquement, c'est une contrainte complètement délirante pour un site e-commerce standard. Franchement, un Googlebot traditionnel, ça tourne souvent autour de 80 ou 90 millisecondes de tolérance. Et ça demande déjà d'être bien optimisé.
Je sais, c'est ultra agressif.
Si on prend un site qui tourne avec une base de données un peu lourde, genre un Magento ou un WooCommerce avec 15 plugins pour gérer les promos, les déclinaisons de couleurs, le serveur, il lui faut plusieurs centaines de millisecondes juste pour se réveiller et générer la page HTML.
À moins d'utiliser du cache ultra agressif en périphérie, ce qu'on appelle l'edge computing. Et c'est là que les pare-feux s'affolent.
Tu m'étonnes.
On a eu un cas très parlant avec un client, un grand fabricant d'équipements outdoor de haute montagne. Du jour au lendemain, il s'étonnait d'avoir totalement disparu des recommandations conversationnelles de ChatGPT. On a fait un audit de leur load serveur et on a vu que 78% du trafic qui venait de ChatGPT user finissait dans un mur.
78% de rejet. Ah ouais. Et c'était dû à quoi?
C'était leur pare-feu applicatif. Leur WAF chez Cloudflare était configuré pour filtrer automatiquement toute activité frénétique qui n'avait pas l'empreinte IP officielle d'un moteur de recherche historique genre Google ou Bing.
Donc à l'échelle de cette boîte internationale, on parle potentiellement de millions d'euros de manque à gagner juste parce que le pare-feu a pris ce personal shopper ultra pressé pour une attaque de bot malveillant.
Ouais, des millions. C'est dramatique.
Mais alors, je veux me faire l'avocat du diable une seconde. Le pillage de contenu à grande échelle, le scrapping industriel qu'on voit partout pour entraîner des modèles concurrents sans payer les auteurs, c'est un vrai problème, non? Face à ça, est-ce que c'est pas une décision business super rationnelle de juste fermer les vannes au niveau du pare-feu?
Alors oui, protéger sa propriété intellectuelle contre l'entraînement des modèles, c'est vital et légitime. Mais là où la rationalité s'effondre, c'est quand on confond les acteurs. Bloquer l'extraction massive à froid, ok. Mais refouler ChatGPT user, c'est une erreur stratégique fondamentale.
Parce qu'il n'entraîne pas le modèle, lui.
Exactement. Ce robot n'aspire pas les données pour le deep learning. Il agit comme le mandataire direct d'un acheteur qui vienne taper une intention d'achat explicite. Le bloquer, comme je dis souvent, c'est littéralement barricader la porte d'un magasin pendant les soldes. Et le pire, c'est que l'analyse technique montre que c'est rarement intentionnel de la part des marques.
C'est de l'ignorance technique. Il y a des erreurs systémiques récurrentes, j'imagine.
On en voit trois tout le temps, surtout sur les grands CMS. La première, hyper basique, le fameux disallow/générique dans le fichier robots.txt. Le mec veut bloquer l'IA, il met une règle globale.
Sauf que le chat GPT user, vu qu'il est mandaté par un humain qui fait une requête en direct, techniquement, il pourrait forcer le passage, non?
Il pourrait forcer le passage, oui. Mais la présence de cette ligne dans le robots.txt, ça envoie un signal d'interdiction qui va souvent déclencher un blocage dur par le serveur hébergeur en cascade. C'est bête.
Et la deuxième erreur, si je suis ta logique sur la confusion des identités, c'est quand l'administrateur système interdit l'accès au GPT-bot, qui est l'aspirateur d'entraînement, mais par excès de zèle, il met aussi le chat GPT user sur la liste noire.
C'est classique. Une ligne de code mal ciblée sur App Pare-feu et pouf, tout le canal de vente s'évapore. Et puis, t'as la troisième erreur systémique, qui est super intéressante, parce qu'elle touche à la topographie du site et au sitemap XML.
Ah, le fameux plan du site. Qu'est-ce qui cloche avec le sitemap?
Ben, souviens-toi de la contrainte des 11 millisecondes. L'agent, il a tellement pas le temps de naviguer qu'il se fie aveuglément au sitemap pour localiser les produits. Mais sur des plateformes comme Shopify, par exemple, le système natif te génère un sitemap avec l'URL principale du produit, mais ça exclut de base les URL des variantes.
Ah mince! Donc si je vends un sac à dos technique avec 12 couleurs différentes, les 11 autres couleurs, elles sont virtuellement invisibles pour le bot?
complètement invisible. Le modèle IA pourra jamais répondre à une requête ultra spécifique du genre « sac à dos trail rouge », parce que pour lui, l'URL n'existe pas. Et il y a un autre truc lié à l'architecture, très courant sur les sites headless avec WooCommerce.
C'est quand tu sépares la base de données de l'interface visuelle avec du React ou du Vue.js, c'est ça?
Ouais. Si le rendu côté serveur, le server-side rendering, il a une micro-défaillance temporelle, bah l'agent IA, il va pas attendre que le JavaScript s'exécute sur le navigateur. Il lira juste un écran vide. D'ailleurs, le crash test est simple. Tu désactives le JavaScript de ton navigateur, tu recharges ta fiche produit. Si ton prix ou ton bouton panier disparaît, bah ton produit n'existe pas dans l'économie conversationnelle.
C'est un test impitoyable, franchement. Bon, du coup, franchissons encore une étape. Admettons que l'infrastructure réseau tienne le choc des 11 millisecondes, que le pare-feu laisse entrer le robot et que le sitemap soit nickel. L'agent accède enfin à la fiche produit. On dit qu'il analyse ça avec sa product query hyper strict. Mais comment l'algorithme évalue que cette part est légitime, au point de la recommander à l'acheteur final? J'ai lu des rapports de log qui montraient la présence de paramètres de suivi bizarres, des strict leads dans les URL de ChatGPT. C'est quoi le lien avec Google là-dedans?
C'est une excellente question et ça touche à un système à double canal absolument crucial pour la conversion. En fait, le moteur de recherche de ChatGPT, il bosse pas tout seul. Il s'appuie massivement sur des API externes en arrière-plan et particulièrement sur l'index de Google. Les paramètres strict leads qu'on voit dans les logs, c'est la preuve technique que la requête passe par Google.
Donc, si je comprends bien, la compréhension sémantique de l'IA, elle est d'abord filtrée par ce que Google a compris du site.
Exactement. Et quel est le langage universel qui permet à Google et à l'IA de transformer une page web visuelle en une base de données lisible? Ce sont les données structurées. Le balisage schema.and.
Le schéma product.
Le schéma product, ouais. C'est le nerf de la guerre. S'il est incomplet, l'effet punitif, il est double. Tu perds des positions sur Google classique et tu te prives à 100% du tremplin vers les générateurs d'IA.
Et j'imagine que la machine ne fait preuve d'absolument aucune clémence sur les erreurs de balisage. Surtout que le modèle accorde une confiance aveugle à ce code invisible. Mais il faut que ça matche parfaitement avec ce qu'il y a à l'écran, non? Par exemple, si j'ai un script promo JavaScript qui affiche le prix à 59€ sur la page, mais que mon balisage schéma en fond, il est resté bloqué à 79€,
oh là là, ça c'est fatal. C'est ce qu'on appelle la pénalité de contradiction fatale. Il faut bien comprendre un truc, hein. Les modèles de langage comme GPT, ils sont terrifiés à l'idée de générer des hallucinations ou de mentir à l'utilisateur. C'est leur pire cauchemar au niveau de l'alignement.
Ah ouais, donc s'il y a une contradiction entre le code et le visuel...
Bim ! L'indice de confiance de la source est détruit instantanément. La fiche produit est éradiquée de la synthèse. Pour sécuriser sa position, il faut blinder son balisage au-delà du classique titre, prix, dispo. Il y a 4 balises schéma qui sont devenues une question de vie ou de mort pour le e-commerce.
D'accord. Alors, si on veut vraiment blinder sa page techniquement, aujourd'hui, c'est quoi ces 4 variables intouchables?
Alors, premièrement, l'attribut brand, la marque. C'est essentiel pour que l'IA puisse désambiguiser des termes génériques dans un marché saturé. Deuxièmement, le SKU, donc ton identifiant interne de gestion de stock. Et troisièmement, et ça c'est souvent le gros maillon faible, c'est le code barre international, le GTIN. C'est l'élément pivot.
Attends, pourquoi un simple code barre industriel, genre EAN13, ça a autant de poids pour un modèle linguistique?
Ce code barre, c'est la connexion directe entre la collecte de données en temps réel, qu'il fait sur ta page, et les milliards de paramètres figés dans son réseau de neurones lors de son long entraînement statique.
Ah! Donc quand il voit le GTIN, il relie ta page à tout ce qu'il a déjà ingéré sur ce produit depuis des années.
Mais tout à fait. Quand l'algorithme trouve un GTIN certifié, il n'a plus besoin d'analyser ton texte en doutant. Il relie instantanément ton offre à toute la base de connaissances mondiale qu'il a sur ce produit exact. Ça fait exploser le score de pertinence. Et enfin, la quatrième variable, c'est l'aggregate rating, donc la note globale des avis clients. C'est la validation sociale quantifiée que la machine exige avant de recommander.
C'est fou l'impact de cette ingénierie technique sur la rentabilité pure, en fait. Surtout quand on regarde les données comportementales derrière. J'ai vu des études sectorielles qui montraient que l'acheteur qui clique sur un lien sourcé par GTPT, il a un profil complètement hors norme. Le taux de conversion sur ce trafic-là s'établit à 1,81% en moyenne contre un 1,39% pour le trafic organique classique.
C'est un bond de 31%, c'est faramineux.
C'est énorme! Mais psychologiquement, ça s'explique hyper bien en fait. L'internaute qui clique sur la recommandation de l'IA, bah, il a littéralement sous-traité toute la friction de l'achat à la machine. L'analyse des specs, la comparaison, la lecture de centaines d'avis clients, l'IA a déjà tout filtré. Donc au moment où la page de ton site s'ouvre, la décision d'achat dans la tête du gars, elle est déjà prise.
Ouais, mais attention, ce taux de conversion stratosphérique, il cache une réalité financière qui est beaucoup plus nuancée pour les marchands.
Ah oui, hein ? Qu'est-ce qui cloche ?
Bah, cette hyper-rationalisation a un effet collatéral majeur, hein. On observe une chute mécanique de 14,3% du panier moyen. Globalement, sur le panel étudié, le panier passe de 238$ en organique classique à environ 204$ via l'IA.
Et ça s'explique comment, cette baisse ? L'IA cherche toujours le moins cher.
C'est la nature même de l'algorithme. L'intelligence artificielle, c'est un acheteur qui n'a absolument aucune impulsion émotionnelle. Elle s'en fiche complètement de l'esthétique luxueuse de ton interface, de ton storytelling ou de tes pop-up de cross-selling. Son seul et unique objectif, c'est l'optimisation mathématique du rapport qualité-prix en fonction de la requête de base.
Ah ouais, je vois. Donc pour un gros acteur du mass market ou un site de discount qui joue sur les volumes et les prix cassés, ce trafic IA, c'est du pain béni. C'est hyper rentable.
C'est une mine d'or pour eux.
Mais par contre, pour une marque premium ou genre un artisan qui vend des produits à haute valeur ajoutée, c'est une catastrophe. L'IA va mécaniquement les pénaliser parce qu'elle voit juste un produit plus cher avec les mêmes specs bruts. Comment ces marques font pour s'en sortir ?
Bah, c'est l'enjeu crucial de la décennie pour ces marques-là. Ça nous amène à la distinction entre la visibilité dynamique et la visibilité paramétrique.
C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, la majorité des sites e-commerce sont obsédés par la visibilité dynamique, c'est-à-dire l'instant T. Avoir le prix à jour, le stock vert, la date de livraison bien affichée, c'est super, mais pour l'IA, c'est totalement insuffisant. L'IA a besoin de contexte, et c'est là que les critères EEAT de Google entrent en jeu. Expérience, expertise, autorité et fiabilité.
D'accord, donc l'historique et la confiance.
Exactement. Pour qu'un modèle IA recommande un article premium beaucoup plus cher, il faut qu'il ait ingéré, pendant son entraînement de plusieurs mois, une masse d'informations textuelles qui justifie ce surcoût. C'est ça la visibilité paramétrique.
Donc si je vends un sac en cuir artisanal magnifique à 600€, mais que j'ai juste une page produit classique avec mon prix dynamique, l'IA va comparer mes dimensions et mon type de cuir avec un sac industriel à 60 balles et elle va me rejeter direct pour non-compétitivité.
Voilà, t'as tout compris. La machine comprend pas l'artisanat si tu ne lui expliques pas avec des données.
Faut nourrir la machine en amont, alors. Il faut publier des guides d'achat massifs, des vrais manifestes sur la provenance du cuir, des comparatifs hyper poussés. D'ailleurs, c'est sûrement ça qui explique l'avantage concurrentiel hallucinant qu'ont des sites comme Reddit en ce moment. Les IA s'abreuvent de ces milliers de débats humains, de retours d'expériences super pointues pour forger leur définition de l'expertise et de l'autorité.
C'est exactement ça. En synthèse, le message pour les décideurs du e-commerce, il est sans appel aujourd'hui. Le SEO technique de papa, limité aux balises HTML H1, H2, c'est terminé. Ça a fusionné avec les exigences hyper strictes des grands modèles de langage.
C'est devenu de l'ingénierie serveur, en fait.
Ouais. Intégrer un schéma JSON parfait, surveiller ses logs serveurs tous les jours, garantir un temps de réponse sous les 15 millisecondes à la périphérie du réseau, c'est plus de l'optimisation de confort, c'est devenu l'infrastructure de survie pour n'importe quel boîtier e-commerce à l'ère de l'IA.
Surtout quand on lève les yeux vers l'avenir très très proche, j'ai lu une projection vertigineuse de McKinsey l'autre jour. Ils anticipent que ce qu'ils appellent le shopping agentique, ça va représenter un volume de plus de 1000 milliards de dollars juste aux États-Unis d'ici 5 ans.
Ah oui, le shopping agentique, c'est l'avènement du zéro-click commerce.
C'est fou comme concept, l'acte d'achat sans aucune navigation. L'utilisateur dicte juste son besoin à l'oral, à son téléphone, et bam, l'agent IA lance ses requêtes internes web.run, il scanne les entités avec Product Query, il vérifie le balisage JSON, et vu qu'il a les droits sur le portefeuille numérique de l'utilisateur, il valide carrément le paiement en arrière-plan.
La transaction se fait de bout en bout sans que l'humain n'ait jamais vu l'interface graphique du site marchand. Les marques qui n'auront pas structuré leur base de données pour ce robot vont tout simplement s'évaporer.
Ce qui soulève une question finale hyper intéressante qui touche presque à la philosophie ou à la sociologie. Si l'avenir, c'est ça, des milliers d'agents logiciels invisibles qui comparent des données de JSON et valident des paiements en 11 millisecondes, que va-t-il rester de la sérendipité, du plaisir de la découverte par hasard, de l'achat d'impulsion un peu déraisonnable ?
C'est la grande inconnue, ouais.
Franchement, quel sera le poids d'un design de site magnifique, d'une photo d'ambiance travaillée pendant des heures, ou même de l'attachement affectif à une marque, si la porte d'entrée de ce fameux centre commercial géant dont on parlait au début, elle n'est franchie que par des bouts de code mathématique qui s'arrêtent jamais pour contempler les vitrines, quelle est la valeur réelle d'une belle vitrine aujourd'hui? Je pense que la redéfinition de l'espace marchand, elle ne fait vraiment que commencer. Et franchement, ça va être radical.